Une lumière dans l'obscurité. Laissez l'esprit s'établir dans le moment présent. Parfois, vous pouvez utiliser le mot « laisser ». À d'autres moments, vous devez le forcer parce que parfois l'esprit n'est pas d'humeur à s'établir. Il a toutes sortes de questions auxquelles il veut penser. Il a toutes sortes de projets. Et maintenant, il dispose d'une heure entière pendant laquelle il peut penser à ces choses-là, des choses qui ont été refoulées au cours de la journée, parce que d'autres avaient capté votre attention. Maintenant, elles peuvent commencer à apparaître à la surface, et vous avez donc besoin d'outils pour les empêcher de se mettre en travers du chemin. Un outil efficace est simplement le désir d'être calme. Par exemple, lorsque l'esprit est fatigué, il veut vraiment se reposer. Dans ces cas-là, tout ce que vous avez à faire, c'est lui fournir un bon endroit où se reposer. Votre préoccupation principale est alors de vous assurer qu'il ne s'endort pas ou qu'il ne dérive pas dans une zone où il n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe. Si le corps est fatigué, pratiquez quelques bonnes inspirations et expirations profondes pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'oxygène dans le cerveau. Ensuite, permettez à la respiration de s'établir progressivement à un rythme plus confortable. Une fois que ce rythme est confortable, répandez cette sensation de confort afin qu'elle remplisse le corps tout entier et essayez ensuite de rester pleinement conscient du corps tout entier. Ne laissez pas votre conscience rétrécir. À d'autres moments, l'esprit dispose de plus d'énergie pour penser, et dans ce cas, vous devez l'interrompre en utilisant d'autres techniques, en partie en lui expliquant des choses, en partie en disposant de valeurs qui vont interrompre les pensées. Trop souvent, nos valeurs vont dans l'autre direction, encourageant la pensée, en particulier à cause de l'idée que nous avons que si nous comprenons les choses à l'avance, nous ne serons pas obligés de faire le travail. Il y a tellement de personnes parmi nous qui viennent à la méditation avec cette attitude. Si vous lisez assez de livres, si vous considérez bien les choses, si vous réfléchissez en détail à l'avance, alors vous n'aurez pas besoin de faire le travail. Il vous suffit de vous établir, des visions pénétrantes apparaîtront dans l'esprit et le travail sera fait. Mais cela ne marche pas ainsi, parce que de nombreuses visions pénétrantes que nous essayons d'obtenir concernent la manière dont l'esprit fonctionne, et vous ne pouvez pas vraiment voir le fonctionnement de l'esprit avant de lutter avec lui pour connaître ses tenants et ses aboutissants, pour savoir d'où viennent les tours qu'il se joue à lui-même. Et vous devez également développer de bonnes répliques. Parfois, il y a une conversation, un débat qui se déroule dans l'esprit. Une partie de l'esprit veut penser à ceci, penser à cela. Eh bien, vous devez argumenter avec lui, lui donner de bonnes raisons pour ne pas aller là. Et faites en sorte que ces raisons restent brèves. car autrement vous allez être attiré dans des conversations sans fin. Rappelez-vous que la connaissance, au moins la connaissance que nous recherchons dans la méditation, n'est pas quelque chose que l'on obtient en considérant bien les choses. Ajahn Suat avait un commentaire à ce propos. Il disait « C'est comme l'obscurité. Vous n'aimez pas l'obscurité, mais vous ne pouvez pas attaquer l'obscurité. Vous ne pouvez pas creuser un trou dedans. Vous ne pouvez pas la déchirer. Vous devez allumer une lumière. Alors, la lumière s'occupera de l'obscurité. Toutes les autres choses que nous pouvons faire pour essayer de saisir l'obscurité ou l'arracher ne marchent tout simplement pas. C'est la même chose avec l'esprit. Nous ne pouvons pas sortir de l'ignorance en pensant. Nous devons observer afin de pouvoir donner naissance au discernement. Ici, le discernement est précisément cela. La conscience qui apparaît lorsque vous observez les choses vraiment attentivement, lorsque vous observez ce qui se passe dans l'esprit. Donc, vous devez créer les bonnes circonstances. Encore une fois, ce n'est pas une question de bien considérer les choses. La préparation correcte pour la méditation, la partie qu'il explique à l'avance, vous dit simplement comment créer la bonne situation, et ensuite vous devez simplement observer. Une bonne analogie est celle du chasseur. Le chasseur fait tout ce qu'il peut pour se préparer à aller chasser, pour que toutes ses armes soient prêtes. Ensuite, il sort, il doit rester assis très calme et immobile. Il ne peut pas décider à l'avance que le lapin va passer par là à 2 heures de l'après-midi, de façon à ce qu'il puisse être de retour vers 3 heures et dîner avant que la nuit tombe. Le chasseur sort et tout ce qu'il peut faire, c'est rester assis là, très silencieux, tout en étant très attentif. Que le lapin passe à midi, à 2 heures, à 4 heures, ou bien qu'il ne passe pas ce jour-là, le chasseur doit cependant être attentif tout le temps. Il ne peut pas laisser son attention se relâcher, il ne peut pas faire de bruit, et il ne peut pas prévoir les événements à l'avance. Il ne peut pas, par la force de sa volonté, faire que le lapin passe à un moment particulier ou à un endroit particulier. Le chasseur fait simplement de son mieux pour créer les bonnes circonstances, le long du sentier où les lapins passent d'habitude, et ensuite, il s'assied, calme et immobile, et il observe. C'est la même chose avec la méditation. Vous rendez l'esprit aussi calme que vous le pouvez, et ensuite vous devez observer. C'est la seule manière dont vous pourrez obtenir des visions pénétrantes vraiment nouvelles à propos de ce qui se passe. En fait, en tant que méditants, nous sommes dans une meilleure position que les chasseurs, parce que l'esprit envoie constamment de petits signaux. Il nous fournit sans arrêt quelque chose à saisir, tandis qu'il est occupé avec ceci, avec cela, qu'il effectue ce choix-ci et ce choix-là. Le problème est que nous ne sommes pas suffisamment calmes pour remarquer ces choses. Nous ne sommes pas assez attentifs. Nous ne focalisons pas notre attention aux bons endroits. nous ne posons pas les bonnes questions. Et le résultat, c'est que nous ne voyons pas, même si tout est en train de se dérouler ici même, sous nos yeux. Donc, vous devez être très, très attentif, très, très calme, et ensuite poser les bonnes questions. Le Bouddha donne des conseils à ce sujet. Les questions autour des quatre nobles vérités. Où y a-t-il du stress? Où y a-t-il du désir ardent? Quand Sati est-il présent? Quand est-il absent? Pouvez-vous voir ces choses? Quand Sati est présent, comment pouvez-vous le maintenir? Quand il est absent, comment pouvez-vous lui donner naissance? Ce sont là les questions qu'il veut que nous nous posions à propos du moment présent. À part cela, il nous dit de laisser tout le reste de côté, toutes nos autres préoccupations, toutes les autres distractions qui peuvent survenir, et de nous focaliser sur la question réelle à portée de main, qui est « Comment gérer la souffrance ? Comment gérer le stress ?» Une fois que l'on a traité cette question, tout le reste est réglé. J'ai récemment reçu une lettre d'un docteur qui prétendait que la psychologie moderne va bien plus loin que le bouddhisme, en ce sens que, alors que le bouddhisme traite seulement le problème de la souffrance, la psychologie moderne, elle, traite le problème de la souffrance et donne aussi un sens à la vie. Je ne pense pas qu'ils comprennent la profondeur du problème de la souffrance. Une fois que vous éradiquez vraiment la souffrance, ce qui reste de votre vie, la signification de ce que vous voulez en faire, est très claire. Et cela varie d'une personne à une autre. Mais le grand problème auquel chacun est confronté, c'est celui de déterrer les racines de la souffrance. Une fois que ces racines ont été déterrées, alors la question de la signification ne constitue plus un problème. Pourquoi la question de la signification nous gêne-t-elle? Il doit y avoir de la souffrance, il doit y avoir du stress qui l'entoure. Nous l'examinons. Pourquoi faut-il que les choses signifient quelque chose? Quelle est la souffrance qui résulte du fait qu'il n'y a pas de signification? Fouillez ceci. Examinez ceci. Et si cela est trop abstrait ou trop subtil, focalisez-vous sur l'endroit où vous voyez effectivement la souffrance, où vous voyez effectivement le désir ardent, parce que développer vos facultés d'observation est un processus comme n'importe quelle autre activité. Vous travaillez en partant de ce qui est grossier pour aller vers ce qui est subtil, en partant de ce qui est grossier pour aller vers ce qui est raffiné. Vous ne restez pas assis là en disant « Ce problème est trop grossier pour moi. Je vais attendre jusqu'à ce que les problèmes subtils apparaissent. » Vous devez traiter d'abord les problèmes grossiers, d'abord les problèmes flagrants. Pratiquez sur eux, et alors votre sensibilité, votre conscience deviendront de plus en plus subtiles. Vous devez commencer là où vous êtes et l'accepter comme votre point de départ. Vous ne pouvez pas dire « Je voudrais que ma concentration soit meilleure. Je voudrais qu'elle soit comme elle était il y a des années. Vous devez laisser ces pensées de côté et vous dire « Où est-elle en ce moment même ? Que suis-je capable de faire en ce moment même ? Quels sont les problèmes qui se présentent d'eux-mêmes en ce moment même ?» Si vous prenez l'habitude de traiter ce qui est présent en ce moment même, vous êtes focalisé au bon endroit. Vous développez les habitudes dont vous avez besoin. Après tout, nous travaillons sur une habileté. Il ne s'agit pas d'un puzzle intellectuel pour lequel il suffit de bien considérer les choses. Les habiletés requièrent que l'on s'y consacre sérieusement. Elles requièrent du temps. Elles requièrent qu'on s'implique. Il y a une histoire intéressante que l'on raconte à propos de la sélection des candidats pour une formation à la neurochirurgie dans une célèbre université. Comme vous pouvez l'imaginer, tous ceux qui sont candidats pour devenir neurochirurgiens doivent être intelligents, mais tous ceux qui ont une intelligence livresque ne peuvent pas réussir la formation. Donc, la question est de savoir comment éliminer les personnes qui ne réussiraient pas. On a découvert que l'une des questions les plus utiles à poser aux candidats était « Pouvez-vous me parler d'une erreur récente que vous avez commise ?» Les candidats qui disent « Je ne me souviens pas d'avoir récemment commis une erreur quelconque » sont immédiatement éliminés. Ceux qui disent « Ah oui, il y a juste quelques jours, j'ai commis cette erreur » sont ceux qui ont réussi la première étape. La question qui suit est « Que feriez-vous différemment si vous aviez une seconde chance ?» Ceux qui montrent qu'ils ont déjà pensé à cette question et qui ont déjà trouvé des alternatives sont ceux qui sont acceptés dans la formation. Les personnes qui vont réussir ne sont pas celles qui ont tout compris à l'avance, ce sont celles qui continuent à apprendre tout au long du chemin. Le même principe s'applique à la méditation. Vous devez apprendre à mettre votre esprit dans un état où il est toujours prêt à apprendre, parce que c'est seulement à ce moment-là que vous verrez des choses que vous n'aviez pas vues avant, des choses qui allumeront la lampe, qui chassera l'obscurité de l'ignorance. Donc, continuer à observer.